Rendu compte, et je pense qu'on a tous fait le même constat, que prier en s'appuyant sur les promesses de Dieu, c'est mieux. On peut certes demander plein de choses au Seigneur, mais parfois on peut ressembler un peu à ces enfants qui veulent tout, un peu gâtés. Alors que quand on s'appuie sur la parole de Dieu, on sait ce qui va dans la volonté de Dieu, ce qui ne va pas, et donc on évite parfois de perdre, excusez-moi, du temps à demander des choses que Dieu nous dit, mais pourquoi tu me demandes ça? N'est-ce pas? Et ce matin, je priais, je disais, Seigneur, donne-moi un texte à partager ce soir. Et Seigneur m'a conduit par la lecture en 1 Samuel au chapitre 7, les versets 1 à 17. Et j'aimerais faire cette lecture et juste quelques points sur lesquels on peut nous appuyer encore ce soir pour prier, mais pas seulement que ce soir, puisque je pense que chacun de nous, nous attendons pas que le vendredi soir pour prier, mais c'est notre engagement de tous les jours. C'est à tout moment, on peut aller au Seigneur, à tout instant. C'est incroyable, vous pouvez lever autant tôt que vous voulez, le Seigneur sera là toujours pour vous écouter. Non? Et parfois, en pleine nuit, le Seigneur nous réveille parce qu'il y a un fardeau et il ne nous lâche pas, parce qu'il y a des frères et sœurs qui comptent sur nos prières, parce que le Seigneur veut nous rendre participants de sa gloire. C'est merveilleux, ça, hein? En général, quand quelqu'un gagne, aime bien gagner tout seul pour dire c'est moi. Le Seigneur, lui, il est prêt à partager sa gloire. Et c'est pour nous un honneur de partager cela avec le Seigneur. Le texte de 1 Samuel au chapitre 7, alors je prends les lectures en général sur 8 secondes 21. Alors je ne sais pas si c'est la même traduction. Donc s'il y a quelques mots différents, ne soyez pas étonnés. Les habitants de Kiriath-Jarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel chez eux. Ils la conduisirent dans la maison de Abinadab, sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éliazar pour la garder. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kiriath-Jarim. 20 années avaient passé. Alors toute la communauté d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à la communauté d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, enlevez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez lui seul. Il vous délivrera alors de l'oppression des Philistins. Les Israélites enlevèrent du milieu d'eux les Baals, les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, rassemblez tout Israël à Mitzpa, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils se rassemblèrent à Mitzpa. Ils puisèrent de l'eau et la versèrent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les Israélites à Mitzpa. Les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient rassemblés à Mitzpa, et les princes des Philistins montèrent pour attaquer Israël. À cette nouvelle, les Israélites eurent peur des Philistins, et ils dirent à Samuel, n'arrête pas de prier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la domination des Philistins. Samuel prit un tout jeune agneau et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit gronder ce jour-là un tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant l'Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessus de Betkar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpa et Shen et il appela Ebenezer en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Ainsi, les Philistins furent humiliés et ne vinrent plus sur les territoires d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises à Israël retournèrent à Israël depuis Écron jusqu'à Gath avec leur territoire. Israël les arracha à la domination des Philistins. Il y eut aussi paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal, de Mitzpa et juger Israël dans toutes ses villes. Puis, il revenait à Rama, où se trouvait sa maison, et il jugeait Israël, et il conduisit là un autel, il construisit, pardon, là un autel en l'honneur de l'Éternel. Amen. En lisant ce texte, la première chose qui m'a interpellé, c'est que ils ont été un tout petit peu loin à la détente. 20 ans. 20 ans dans laquelle ils ont essayé de trouver des solutions tout à eux, en se donnant au culte des statues, et en ne voyant rien derrière cela, en subissant les attaques des Philistins, et il a fallu 20 ans. 20 ans, et pendant ces 20 ans, l'arche qui avait été enlevée au peuple d'Israël, puisque les enfants du sacrificateur étaient partis avec eux, qui avaient fait tout ce qui était désagréable aux yeux de Dieu. Ils étaient partis en pensant qu'en effet l'arche était un talisman qui allait leur permettre de gagner. Mais Dieu n'est pas dans ce mode de fonctionnement. Et suite à ce combat, ils avaient tout perdu. Et les Philistins pensaient pouvoir mettre l'arche comme un trophée dans le temple où ils avaient Dagon, leur idole. Et la parole de Dieu nous dit que la première nuit, l'idole s'est retrouvée couchée par terre devant l'arche de l'Éternel. Ils l'ont redressée, tout seul il n'y arrivait pas. Deuxième jour, à nouveau par terre, et là, il était même avec des parties coupées. Qui peut résister devant la présence de Dieu d'une manière impure, d'une manière indigne? Qui peut prendre la place de Dieu? Personne. Et le texte nous dit qu'il s'était passé bien 20 ans. 20 ans. Et finalement, ils avaient, pendant ces 20 ans, permis que l'arche soit dans une ville, dans une maison, chez une personne. Le texte il nous dit qu'ils avaient ramené l'arche dans la maison d'Abinadab. Si vous faites bien les lectures dans d'autres textes, vous verrez que la maison de celui qui avait l'arche était bénie. Quand la présence de Dieu est là, on est béni, n'est-ce pas? Peut-être qu'au départ, on n'a rien, mais Dieu est capable de nous bénir avec rien. Ou pas grand-chose, n'est-ce pas? Le Seigneur est capable de pourvoir à tous nos besoins alors que nous, on ne voit rien. C'est un peu comme la femme avec l'huile. Qu'est-ce que tu as chez toi? Rien, sauf. Et ce petit sauf a fait toute la différence puisque Dieu avait prévu de la bénir avec ce petit sauf. Combien de fois nous, on regarde, on dit « Seigneur, j'ai rien. J'ai rien. Seigneur, j'y arrive pas, c'est pas possible. » Et là, Dieu avait béni cette maison. Et au bout de 20 ans, les autres qui avaient vu la différence, parce que je crois que le monde a besoin de voir la différence, de voir non pas le bien-être économique, parce que oui, c'est une des choses auxquelles Dieu pourvoit, mais c'est surtout la paix du cœur, n'est-ce pas? C'est surtout le fait de pouvoir compter sur son secours. Et à un certain moment, le peuple s'est rendu compte. Et il vient voir Samuel en lui disant, voilà, on voudrait que tu appelles à Dieu. Et Samuel, je pense qu'il a mis 20 ans, il a dû mijoter ce message pendant 20 ans. Vous imaginez? Samuel, pendant 20 ans, le texte nous dit qu'il était là, qu'il exerçait son ministère de prophète, de serviteur de l'Éternel. Et pourtant, il ne voyait pas de changement. 20 ans. Ça doit être horrible, non? Pendant 20 ans, attendre un changement qui ne vient pas. Il était patient, hein? Et moi, je me dis, quand finalement, ils ont posé la question, alors là, le message était prêt. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, voilà ce qu'il y a à faire. Waouh! Finalement, le fardeau est libéré. 20 ans d'attente, mais Dieu avait préparé Samuel, avait préparé la réponse. Et Dieu avait préparé aussi la manière de réagir. Parfois, il y a des situations pour lesquelles on prie, non pas un jour, non pas deux, non pas un an, non pas deux, mais bien plus. Et on se dit, Seigneur, est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire après tant et tant d'années? Et le Seigneur nous prouve que oui, parce que lui connaît les temps et toutes choses entre ses mains. Il est capable de changer les cœurs. Amen. Donc je voudrais vous encourager ce soir, ne perdez pas courage. Le temps est entre les mains de Dieu. Je vous rassure, Dieu ne vieillit pas. Ah non, Dieu ne vieillit pas, il n'oublie pas, il n'a pas le même problème que nous avons. Dieu ne vieillit pas. Mais le texte nous dit qu'il s'était passé bien du temps et finalement, il les a amenés à cette prise de conscience parce que prier sans vérité équivaut à brasser de l'air, n'est-ce pas? Il dit, vous voulez revenir au Seigneur, voilà ce qu'il y a à faire. Il faut marcher dans la vérité, dans la sainteté, dans la justice. Et si c'est le cas, ben Dieu répondra. Et à chaque fois, vous le voyez dans la parole de Dieu, à chaque fois que le peuple a pris cette vraie résolution, Dieu était patient. Je ne sais pas si nous, autant qu'hommes, on accepterait autant de trahison. Déjà, quand on se fait trahir une fois, c'est une fois de trop. Mais regardez la patience de Dieu. Et le texte nous dit qu'à un certain moment, revenez de tout votre cœur, enlevez ce qui est un interdit aux yeux de Dieu, dirigez votre cœur vers Dieu, servez lui seul. Et après, il est question de s'humilier, d'assumer ses responsabilités, puisque Samuel va juger Israël, va le juger. Prendre conscience de nos erreurs, prendre aussi la part qui nous revient. Et vous savez, quand on prend de telles décisions, les nouvelles vont vite. Si vous voyez bien, les Philistins, tout de suite, ils ont appris qu'eux. Quand on prend une décision pour Dieu, qui sait pourquoi Satan le sent tout de suite? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il attend de voir si vraiment, si on va se décider. Non, il attaque direct. Et souvent, c'est le cas. Mais Dieu soit béni parce que le cœur, malgré une certaine crainte qui a pu faire place dans le cœur, ils ont dit, n'arrête pas de crier pour nous à l'Éternel. Alléluia. C'est beau de pouvoir crier à Dieu et de compter sur sa grâce. Et la parole de Dieu nous dit que Samuel prit un tout jeune agneau, l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Dieu veut pas la moitié d'un sacrifice. Est-ce qu'on est prêt à tout offrir au Seigneur ce soir? Vous savez, c'est facile d'offrir un agneau, hein? Marc, si on te disait tu dois offrir un agneau, tu fais comment? Voilà, tu vas l'acheter. Il y a lui le prix économique, mais après quoi? Voilà. Le prix que Dieu a payé est bien plus fort, bien plus grand. Il a payé du début à la fin. Et là, le Seigneur nous demande nous aussi d'avoir cette capacité de dire, Seigneur, je suis prêt à payer le prix. Parce que Seigneur, j'ai besoin de toi. Frères et sœurs, face aux situations, n'arrêtons pas de crier à Dieu. N'arrêtons pas d'offrir à Dieu notre sacrifice vivant, notre louange, notre adoration. Dieu aime la louange de son peuple et l'ennemi est dérangé contre le peuple de Dieu loue. S'il y a une chose qui le dérange pleinement, c'est que le peuple de Dieu le loue. Amen. Il n'aime pas quand le peuple de Dieu prie. Regardez toutes les possibilités, tout ce qu'il met en œuvre pour vous déranger quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous priez, les pensées qui arrivent à bombarder de tous les côtés. Parce qu'il ne veut pas, ça le dérange. Il préfère mieux que nous soyons bien installés peut-être sur une chaise longue entre nos pieds. Il nous chante une bonne berceuse, berceuse qui nous permet de continuer à dormir, surtout spirituellement, alors que Jésus lui-même, il vient et nous rappelle, veillez et priez. Pour résister à la tentation, n'est-ce pas? Et le texte nous dit que pendant qu'il offrait le sacrifice, l'Éternel fit gronder ce jour-là son tonnerre. Alors j'imagine ce qui a dû se passer. C'est que le Seigneur a commencé à lancer des foudres depuis le ciel et je peux vous dire que là, t'es pas fier, hein? Tu pars en courant parce que tu fais quoi devant la foudre? Tu fais quoi devant le tonnerre? Et le texte dit que à ce moment-là, le peuple reprit courage et ils sont sortis pour aller finalement remporter la victoire. Moi, je crois qu'encore ce soir, Dieu a des choses à dire depuis le ciel. Dieu intervient depuis le ciel, mais il nous laisse une place qui est celle d'aller remporter la victoire jusqu'au bout et de reprendre ce que l'ennemi nous a enlevé. Qu'est-ce que l'ennemi vous a enlevé? Est-ce que l'ennemi vous a enlevé un de vos enfants pour l'attirer dans le péché? Eh bien, c'est le temps d'aller le chercher. Certes, dans la prière. Certes, avec sagesse, mais il y a un temps où Dieu permet que le ciel est ouvert pour nous et qu'à un certain moment, l'ennemi, il est obligé de lâcher prise parce que c'est Dieu lui-même qui intervient. Et le texte nous dit qu'ils ont récupéré les villes qui avaient été prises, la paix avait régné. Et à ce moment-là, il dit le texte, Samuel prit alors une pierre, il l'adressa entre Mitzpa et Shen et il l'appela Ebenezer en disant « Jusqu'ici ». L'Éternel nous a secourus. J'ai regardé dans une autre traduction qui dit, Samuel prit alors une pierre, il l'adressa entre Mitzpa et Shen et l'appela du nom Ebenezer, la pierre du secours. La pierre du secours. Qui est le rocher de notre secours? Et il l'a placé entre deux situations. Peut-être que, frères et sœurs, dans un conflit, on a besoin de mettre cette pierre entre nous et l'autre personne, parce qu'on n'arrive pas à régler nous-mêmes. Dans une difficulté, on a besoin de dire, Seigneur, c'est toi qui dois intervenir. Dans un besoin, Seigneur, moi je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas les moyens. Seigneur, je compte sur le rocher, et d'ailleurs le nom du rocher, c'est jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Amen. C'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, l'Éternel est notre secours. Je crois que chacun d'entre nous, on pourrait raconter bien des témoignages de comme l'Éternel est intervenu. Le texte nous dit que la main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Un homme. Vous avez vu comment Dieu s'est servi d'un homme pour changer une nation? Alors ne vous dites pas, je suis seul dans ma maison, je suis seul dans ma famille. Dieu est capable de se servir d'une personne pour sauver une nation. Est-ce que Dieu peut se servir de vous pour sauver votre famille? Est-ce qu'il peut se servir de vous pour sauver votre quartier, votre ville, votre pays? Ben, il faut juste dire, Seigneur, on est là. Mais vous voyez, Samuel n'a pas baissé les bras. 20 ans, il a gardé son cœur attaché au Seigneur. Et le texte nous dit que sa vie était celle de continuer à voyager, même si l'âge se faisait avancer. Il jugeait Israël et il construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel. J'ai mis ceci, je vous le lis tout simplement. On pourrait croire que la vie de Samuel avait été simple. On pourrait croire que son ministère a été facile. On pourrait croire que Dieu regardait et exauçait Samuel plus que les autres. On pourrait même croire que Samuel vivait dans une bulle où rien ne pouvait l'atteindre. Mais en réalité, Samuel priait Dieu. Samuel servait Dieu. Samuel était conscient que ses jugements devaient être droits et conformes à la volonté de Dieu. Samuel veillait à son cœur et à sa vie en se présentant constamment devant Dieu. Dieu était non seulement dans le travail de Samuel, mais aussi dans sa maison. Il avait fait un autel dans sa maison pour adorer l'Éternel. Et je crois que chacun d'entre nous, frères et sœurs, le temps que nous passons en prière dans notre maison, nous faisons de notre maison un lieu où Dieu règne. J'ai eu l'occasion l'année dernière de connaître un frère à l'île de la Réunion. Cet homme était d'origine hindoue et il avait dans son jardin, il avait tout un temple. Vous savez, si vous allez là-bas, vous serez étonné de voir que dans chaque jardin, chacun fait son temple avec tous ses idoles. Ils en ont en pagaille. Ils en ont en pagaille. Et cet homme, finalement, un jour, il s'est converti au Seigneur. Une semaine plus tard, il a retrouvé son enfant pendu dans la cour. Horrible. Et ce frère me disait, si Dieu n'avait pas saisi mon cœur ce jour-là, si Dieu n'avait pas saisi mon cœur ce jour-là, il n'a jamais su qui a fait cela. Mais il avait donné son cœur au Seigneur. Il avait enlevé tous les idoles. Et quand je lui ai rendu visite, ce frère, le Seigneur l'a appelé au ministère, servait le Seigneur de tout son cœur. Il disait, les combats, on en a vécu, on en vit encore. Certes, il y a des questions auxquelles on n'a pas de réponse, mais il y a une certitude. Dieu est là. Et je crois, frères et sœurs, que le Seigneur est là et que certes, quand on enlève des choses dans notre vie qui jusque-là on a pu peut-être s'appuyer, on doit apprendre tout à nouveau à s'appuyer sur le seul repère, sur ce qui doit être au centre, le rocher, Jésus-Christ. On doit apprendre tout à nouveau à dire, Seigneur, je m'appuie sur toi. Alors je ne sais pas si on tient bien l'équilibre. Il y a des moments où on a du mal avec l'équilibre, vous savez? Vous savez, c'est à quoi est lié l'équilibre dans l'être humain? C'est étonnant, hein? Comment est-il possible que l'équilibre est lié aux oreilles? Mais spirituellement, si j'entends bien la voix de Dieu, je suis équilibré. Si je fais la sourde oreille, ça ne marche pas. Encore ce soir, on peut s'appuyer sur Dieu. Et si on est fatigué par l'épreuve, par la difficulté, je voudrais même vous dire, prenez assise sur le rocher, vous verrez, il ne vous laissera pas tomber. On va incliner nos têtes, on va prier, on va remettre au Seigneur encore différents sujets. Je vous demande